Chers amis auditeurs et auditrices qui aimaient les lectures audio, bienvenue pour ce 9e Facebook Live Exilium. Et si vous me regardez en replay, eh bien je vous souhaite également le bienvenue pour cette petite séance littérature, lecture audio. Alors aujourd'hui nous entamons le chapitre 7 d'Exilium, premier livre. Le chapitre 7 sera divisé en deux parties, nous lirons la première aujourd'hui, et je peux vous garantir qu'à partir d'aujourd'hui, les choses se corsent pour notre personnage principal, Frédéric. Alors installez-vous, comme tous les soirs, confortablement. Moi, je mets les lunettes, comme tous les soirs. Et c'est parti. On commence également, comme de coutume, par un résumé de la lecture précédente. Et c'est parti. Résumé de la lecture précédente. Frédéric se remet doucement d'un cauchemar dans lequel la chose, monstre sombre et agressif, lui sautait dessus. Il décide de réorganiser le repas du soir. Tout le monde ira chercher son plateau au réfectoire, puis mangera au dortoir, dans la salle informatique, autour du micro-ondes. Kevin, plus ou moins remis, est aussi de la fête. Avant le repas, tous transforment le dortoir en bunker en bouchant les issues avec des piles de bureaux et de chaises. La relative assurance que cette protection de fortune leur accorde rassure tout le monde. Ensuite, tout le monde retourne au lit. La nuit s'annoncerait-elle enfin calme? Exilium, livre 1, chapitre 7, première partie. Seconde nuit. Encore une nuit en pointillé. Aucune nuit d'internat ne détenait d'ailleurs le pouvoir de procurer un vrai repos, parce qu'aucun lit ne peut remplacer le sien. L'écran du smartphone n'affichait que des bâtons verticaux. 1h11. J'avais laissé les portes de ma chambre et du sas adjacent pour rester en alerte maximum. Pour une toute autre raison, la salle informatique était restée béante. Les restes de bouchers à la reine côtoyaient les portions de bleu d'Auvergne qui trempaient dans les fonds de crème pâtissière, le tout dans un concert olfactif particulièrement audacieux. Je n'en pouvais plus. Toute ma chambre était embaumée. Je dus prendre d'urgence une décision pour endiguer la circulation des effluves. En pleine nuit, je quittais avec peine mon duvet pour aller refermer la double porte d'accès au sas. Puis j'accédais à la salle informatique, pour mieux camoufler les surplus alimentaires disposés en vrac sur les plateaux. Les internes avaient eu les yeux bien plus grands que leur estomac. Des produits frais attendaient d'ailleurs toujours d'être déballés. Avec un peu d'organisation et sans être trop regardant, on aurait pu tirer un second repas de tous ces restes. Sur le retour, par la fenêtre du sas, je vis les gros flocons danser au gré des rafales. Les plus crâneurs venaient se coller sur la vitre pour exhiber la délicatesse de leur schéma. Alors que je m'apprêtais à passer les portes battantes, de derrière les hublots, j'aperçus Jimmy et Sammy s'approcher à petits pas de la chambre de Kevin. Je crus qu'ils poursuivraient leur route jusqu'aux toilettes, mais quand ils m'entendirent refermer les portes, ils me rejoignirent à vive allure, toujours sans bruit. Avant même que j'eus le temps de les questionner, Sammy chuchota ses explications sans ponctuation et en mode accéléré. « Fred, avec Sammy, on a eu peur hier soir, alors on a dormi dans le même lit. Mais en fait, on a discuté, on n'arrivait pas à dormir, puis tout à l'heure on a eu froid comme si une fenêtre était ouverte. Mais hier, on a bien tout vérifié pourtant, hein. Et alors, on est sorti du lit et on a entendu le vent dans la chambre à Kevin et on voulait aller voir, mais t'es arrivé avant et puis... Stop ! Respire un bon coup, respire un bon coup. Je pense avoir compris. On va aller voir ça ensemble et régler cette histoire une bonne fois pour toutes. » Sammy n'en avait absolument pas l'attention. « Pas question que j'y retourne. On reste avec toi et on s'enferme dans la chambre. » Leur effroi n'était pas fin. La peur les torturait bien plus que la nuit dernière. Jimmy développa. « Il y avait aussi des bruits, les mêmes qu'hier soir. Pas le grand bruit qui fait trembler le sol, hein, les autres qui soufflent et qui grattent. C'était moins fort qu'hier, mais on entendait bien. » J'étais fatigué de toutes ces histoires de fantômes. Entre l'irrationnel incompréhensible, le peut-être explicable et le tout à fait limpide, ce dortoir méritait de se voir décerner la palme du paranormal. Ou alors du nombre de pétochards. Bon les gars, je vous promets que si c'est encore la tempête qui vous fait peur, la nuit prochaine, c'est chez vos copains que vous la passerez, mais certainement pas à Saint-Amand. Nous nous rapprochâmes de la chambre de Kevin. Parvenu au milieu du couloir, au niveau de la chambre des trois jeunes, Quentin nous rejoignit, comme aspiré par ses deux acolytes. Il était aussi terrifié, ne le cachait pas. Je soupirais. Oh non les mecs, qu'est-ce que vous me faites là? Toi Quentin, je ne veux pas te voir debout avec tes petits copains, et te retourne immédiatement dans ta piole. Mais j'ai entendu, j'ai entendu. Quentin n'alla pas au bout de sa phrase. Il eut l'impression que je le prenais pour un fabulateur. Le visage durci, il empoigna avec fermeté ma main gauche et m'entraîna avec détermination vers la salle informatique, parce qu'elle était la pièce la plus éloignée de leur source d'inquiétude. Surpris par l'énergie déployée pour parvenir à ses fins, je le laissai me déplacer sur quelques mètres, jusqu'en face de ma chambre. Les deux autres nous suivirent. Puis Quentin, les larmes aux yeux, me pria de l'écouter. « Quand est-ce que tu vas me croire quand je te dis qu'il y a quelque chose de pas normal ici? Pourquoi tu me prends à chaque fois pour un menteur ?» Sa sincérité mêlée d'effroi me contraint à m'adoucir. « Écoute Quentin, je te crois. Je te crois, ne t'inquiète pas. Je ne t'ai jamais pris pour un maboule, mais juste pour un jeune qui cherche à faire des bêtises de jeune, tu comprends? Bon, on va régler ça, tous les trois. Restez à côté de ma chambre et ne bougez pas. » Avant de les abandonner, Samy m'interrogea. « Mais pourquoi t'appelles pas le proviseur ?»« Ah, Samy, très bonne question. Parce qu'il n'a pas répondu de toute la soirée. Il est parti je ne sais où faire la brinque, j'en sais rien, et je crois qu'il se fiche de nous. Il y a un pion au dortoir, c'est tout ce qui lui importe. Ensuite, à moi de me démerder. Demain, de toute façon, je dois le revoir et je compte lui exposer ma vision des choses sur la gestion des nuits. Ben pourquoi t'appelles pas les pompiers alors ?» Main droite levée, le pouce sur l'oreille et l'auriculaire près des lèvres, je simulais un appel de détresse avec une voix d'enfant apeuré. « Allô les pompiers, on a un monstre au lycée Jean Moulin, faudrait vite l'attraper car on a très très peur. Il souffle et il gratte, vous pensez pouvoir faire quelque chose? Il nous reste des beignets tout secs d'hier pour vous remercier. » Malgré ses yeux rougis et ses deux mains écrasées sur la bouche, le rire de Quentin fut trahi par le hochement frénétique de ses épaules. Soudain, un nouveau mouvement à l'entrée du dortoir. Sylvain sortit de sa chambre avec une prudence inhabituelle. Un vieux short déchiré enfilé à la va-vite et une couverture sur les épaules pour seul apparat. La veilleuse du couloir créa un contre-jour qui obscurcissait l'intérieur des chambres. Mais l'élève parvint à fixer la chambre de Kevin devant laquelle il n'avait d'autre choix que passer, bien qu'il ne s'en approchât pas. Son visage était déconfit. Le trio infernal et moi observions Sylvain, sans rien dire, intrigué. « Je suis sûr qu'il a entendu les mêmes trucs que nous !» chuchota Samy. Sylvain déporta son regard vers nous pour signaler qu'il avait bien remarqué notre présence, mais son attention rebascula vers l'objet de sa frayeur. Il continua d'avancer tout doucement, mais dans notre direction. Les yeux écarquillé, il acheva les quelques mètres qui nous séparaient sans détourner son regard du mien. Je lui fis signe avec les mains de me répondre avec le moins de bruit possible. « Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre de Kevin ?» Pour la première fois, je vis l'élève le plus rationnel du dortoir perdre ses moyens. De mon lit, j'ai entendu comme une forte aspiration, mais rien à voir avec un ronflement, hein, de toute façon. Kevin n'y ronfle pas. C'était plutôt une sorte de souffle. Nous aussi, nous aussi on l'a entendu, coupa Semi, tout excité. Quentin fut enfin rassuré qu'un grand du dortoir confirma sa version des faits. Tu vois, Fred, c'est pas des bêtises que je te raconte. Vas-y, continue, Sylvain. Ensuite, il y a eu comme un courant d'air, reprit Sylvain. Alors je suis sorti du lit et c'est là que vous m'avez vu. J'ai d'abord vu une fenêtre ouverte chez Kevin, mais Ça fait trop noir, pas question que j'y rentre. Parce que Kevin, je peux te promettre qu'il n'est pas seul dans sa chambre. Il y a autre chose. Je t'assure qu'il y a quelque chose qui respire. Je l'ai entendu et c'est énorme. Un cinquième interne, Étienne, joignit notre petit comité. Intrigué par nos messes basses qu'il ne parvenait pas à déchiffrer depuis sa chambre, il commanda une explication officielle. Aussi dirigea-t-il son regard vers moi, les yeux moitié collés.
« Mais qu'est-ce qui se passe ici ?»«
On ne sait pas encore, Étienne, mais tes petits copains sont paniqués. » J'entrai dans la chambre, dans ma chambre, puis tapotai sur le tableau électrique à l'entrée. « Bon, de toute façon, il n'y a pas 50 solutions pour savoir ce que c'est. On va éclairer la chambre et là au moins on sera fixé. Puis on enverra Quentin en reconnaissance dans la chambre de Kevin. » Je fis un clin d'œil à Samy.
« Quoi ? Mais t'es malade !»
s'étouffa le patrouilleur commis d'office.
« Pas question que j'entre !»
Bon, eh bien, puisque notre jeune recrue refuse de se sacrifier, c'est moi qui vais y aller. Bon, écoutez-moi tous, sérieusement. Sylvain va se poster devant l'interrupteur général et vous vous placerez à côté, dans le couloir. Quand je vous ferai un grand signe du bras depuis l'entrée de la chambre de Kevin, vous direz à Sylvain qu'il peut réarmer.
Et après ? S'inquiéta Étienne.
Après, j'improvise. Pour être honnête, je ne m'attends pas à voir autre chose qu'un écureuil frigorifié, encore plus effrayé que nous. Mais bon, on verra. Inquiet, Sylvain se lança dans l'ironie.
Ouais, ça doit être ça. Un écureuil qui ouvre les fenêtres, qui fait des bonds de plus de 10 mètres, qui respire aussi fort qu'une vache asthmatique et qui tague les murs. Bien dopé, ton écureuil.
Je réveille Guillaume ? Interrogea Étienne.
Non, laisse-le profiter de sa nuit, il ronfle comme un cochon.
On n'est pas en train de déserter le dortoir, que je sache.
Je regardais le fond du dortoir et pris une profonde inspiration.
Maintenant, je ne veux plus vous entendre.
Allez, courage, Frédéric. Sylvain était pensif, prostré devant le tableau électrique, à attendre le signal. Étienne et les trois jeunes, Samy, Quentin et Jimmy suivaient avec nervosité ma lente et silencieuse progression vers la chambre de Kevin. À mi-chemin, je n'entendais toujours pas de bruit singulier en provenance de la chambre. Seul le souffle de la tempête se faisait remarquer. La fenêtre ouverte rafraîchissait en revanche la température environnante et je ressentis ce courant d'air dont parlaient les garçons. Je ne comprenais pas pourquoi Kevin avait besoin d'aérer sa chambre alors qu'il était bien mieux au chaud. J'utilisai le bord des tables qui obstruait l'entrée comme un cordon pour guider mon chemin, mais surtout comme un support psychologique sur lequel je pourrais m'appuyer si j'avais à prendre mon élan dans la direction opposée. Puis, je m'arrêtai à moins d'un mètre de l'entrée de la chambre. La distance était assez ténue pour entendre ses souffles, ses grognements et ses gémissements dont m'avaient parlé les internes. Des sons graves qui en disaient assez long sur la taille de la chose qui avait pénétré la chambre de Kevin. On était effectivement très loin du gabarit d'un écureuil. J'étais aussi effrayé que les gamins et aurais donné n'importe quoi pour être ailleurs. Je me mordis les doigts d'avoir accepté de surveiller toutes les nuits au lieu d'invoquer un motif bidon. Là, aux premières loges, je n'osais même pas donner le signal au gamin. Dans l'impossibilité de déterminer la réaction de cette chose qui avait infiltré le dortoir. Bon, je me raisonnais. Ça ne pouvait être qu'un animal. Ouais, c'est ça. Juste un animal qui avait froid, qui a senti la chaleur à l'intérieur du dortoir. Ouais, juste une grosse bestiole. Ouais, c'est ça, un gros chat. Un gros chat, il n'y a que ça de toute façon dans la campagne. Un gros chat, je pense que c'était un truc comme ça. Les halètements bestiaux stoppèrent. Comme si la chose avait flairé ma présence. Je regardais les garçons. Ils semblaient si loin. Ils étaient aussi concentrés que je pouvais être angoissé. Soudain, ils s'agitèrent comme des asticots sur un hameçon et pointèrent dans ma direction. Je retournai la tête. Ce que je vis me pétrifia et me fit tomber à terre. Une forme longue, comme une corde ou un tentacule, était sortie de la chambre pour venir s'enrouler en quelques secondes autour des tables postées devant la porte. Comme une plante grimpante volubile, avec délicatesse et précision, elle épousait les contours des objets qu'elle enveloppait sans jamais les toucher.
On aurait dit une liane épaisse, sombre, d'une longueur phénoménale. Son extrémité triangulaire boursouflée cachait une sorte de dard énorme et vaporisa de façon définitive toutes mes théories sur la présence d'un écureuil. Mon fond ruisselait. J'avais la frousse, une monumentale frousse. Cette chose... Oh, je me moquais bien de ce à quoi ça pouvait ressembler. Car si ce que je voyais était sa queue, alors ça n'avait rien à collier par bonheur. Je me relevai sans bruit et amorçai une prudente volte-face. Je ponctuai mon retour par de grands yeux et d'amples mouvements des bras de haut en bas et de bas en haut, afin que les garçons gardent la tête froide et entretiennent le silence le plus strict. Ils interprétèrent mes gesticulations comme un signal, comme LE signal. Le disjoncteur claqua. Les néons crépitèrent. Le dortoir s'illumina tel un sapin de Noël. « Non !» opposai-je dans un hurlement étouffé qui me brûla la gorge. Les gamins, désemparés, crurent entendre le beuglement d'un bovidé atteint d'une trachéite. Sylvain quitta son poste. Quand il comprit que le signal n'en fut pas un, il retourna abaisser le commutateur pour replonger le dortoir dans le noir. Une fois les garçons rejoints, j'entendis la chose libérer son appendice d'autour des tables avec une telle vitesse que l'air claqua comme un coup de fouet. Mes six internes étaient paniqués et restaient sans voix, prostrés, à me regarder comme un nouveau messie sauveur. Mais j'étais aussi désemparé qu'eux. Samy, Jimmy et Quentin prirent les devants et cherchèrent à s'enfuir. Dans leur fuite aussi silencieuse et expéditive qui réfléchit vers un hypothétique sanctuaire, les lourdes tables qui obstruaient l'issue du secours contrarièrent leur projet. Affolés, ils n'eurent d'autre choix que celui de se réfugier dans la salle informatique. Je donnai alors des ordres aux deux internes plus âgés restés près de moi. « Étienne, réveille Guilhem et filez vous cacher en salle info. Toi, Sylvain, tu restes avec les trois jeunes, ils ont confiance en toi. De mon côté, j'essaie une dernière fois de rejoindre quelqu'un par téléphone. » Étienne entreprit sa mission avec sérieux. Courut dans la chambre de Guilhem, dont il secoua le lit avec frénésie. « Putain, réveille-toi, couillon, bouge-toi le cul !» Le ronfleur ne broncha pas. Il ronflait. La chose bougea. Elle se déplaça, et personne ne tenait à la croiser. Étienne n'eut pas le temps d'insister pour réveiller son camarade. Effrayé par cette nouvelle manifestation bruyante de la chose, il laissa choir sa couverture qui lui servait de cape et ressortit de la chambre, terrifié. Je quittai mes quartiers avec précipitation avant d'avoir pu appeler qui que ce soit. Nos regards synchronisés portèrent au fond du couloir. Puis ce fut le silence. En salle informatique, pas un ne gémissait malgré la peur qui les paralysait. Étienne et moi ne bougeons pas plus, prêts à agir, à fuir, à la moindre nouvelle manifestation de la chose. Notre attention se focalisa de façon plus soutenue sur l'entrée de la chambre maudite. La chose ne donnait plus signe de vie. Je jetai un œil dans la salle informatique. « Ça va les mecs ?»« Ouais, » répondit Sylvain, « mais vaudrait peut-être mieux quitter le dortoir là, je le sens mal. Et franchement, les jeunes sont pas tranquilles. » « Bon, pour l'instant, les gars, on reste ici. C'est notre meilleure protection. Dehors, c'est vraiment la merde. » Une dizaine d'interminables secondes plus tard, devant l'absence de danger immédiat, Étienne et moi échangeâmes nos regards afin de nous motiver dans la reprise de nos missions interrompues. Mais la chose nous en dissuada. Nous vîmes dépasser de la chambre infernale ce qui parut être une section de tête. Elle dominait à plus d'1,50 m du sol, colossale, d'un noir mat. Le peu qui se présenta ne ressemblait à aucun animal connu. « Fred, on fait quoi ?» paniqua Étienne. « On va s'enfermer dans la salle informatique avec les autres. Et pour Guilhem ? Je m'en occupe. Phil, je vous rejoins dans une seconde. Mais Kevin, on le laisse. Pour l'instant, j'ai pas de solution pour lui. Va en salle info tout de suite. » Étienne se réfugia avec les autres en salle informatique. Dans la précipitation, il claqua la porte derrière lui, puis se cala sous un bureau. Contre toute attente, une voix faible mais grave surgit de la chambre de Guilhem. « Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore ?» Jamais je n'aurais cru que la lenteur du police aurait pu se manifester en un tel moment. Je criai sur le gamin. « Guilhem, la chose est dans la chambre de Kevin. Sors de ton pieu !»« Comment ça, prends la fenêtre? C'est quoi qui... Merde à la fin, mais arrête avec tes questions à la con !» Une lenteur pathologique. Rien à en tirer. « Bon, merde, cache-toi sous ton duvet, ne fais aucun bruit. On est en salle info, on va attendre que ce truc reparte par où il est venu. Ne bouge pas jusqu'à ce que je revienne te chercher. » Guilhem s'exécuta sans broncher et disparut sous son duvet comme un furet dans un tunnel. La chose ne parut pas progresser et se terra de nouveau dans la chambre de Kevin. Quelques instants plus tard, elle se dévoila à nouveau, tête la première. Terrorisé, je courus en direction de la salle informatique. Je ne remarquais pas le verrouillage de la porte sur laquelle je me fracassais après avoir été stoppé net dans mon élan. Le temps de reprendre mes esprits, je criai vers les garçons de derrière la petite vitre. « Qu'est-ce que vous foutez les gars? Ouvrez-moi !» Les internes étaient assis à terre, calés dans un coin, pétrifiés, assommés par le côté irréel de la situation. « Ouvrez cette foutue porte ou je la défonce !» Alors que je m'apprêtais à forcer d'un violent coup de pied la porte qu'un simple aimant, aussi puissant soit-il, maintenait verrouillé, Sylvain se leva et m'épargna une entrée par effraction. Je venais juste d'entrer quand je ressortis sans prévenir pour me diriger vers la fenêtre du sas.
« Mais Fred, tu fais où là? Tu fais quoi ?»
protesta Sylvain. « Ce truc ne peut sortir que comme il est venu par une fenêtre. Il n'est pas question qu'elle retourne dans la chambre de Kevin. Je veux la voir foutre le camp de ce dortoir. » J'ouvris la fenêtre d'un geste brutal, sans prendre le temps de regarder dans le couloir, trop effrayé par ce que je risquais d'y voir. Les deux battants cognèrent avec une telle violence contre le mur que je crus avoir fracturé le cadre. Je n'avais pas entamé ma réintégration vers notre retraite que le froid et la neige avaient déjà investi le sas, poussé avec force par le vent hurleur. D'un geste rapide, je claquai la porte de la salle informatique, que le mécanisme magnétique verrouilla d'un chlong rassurant. Puis j'écrasai l'interrupteur pour faire de l'obscurité une alliée supplémentaire. Si la chose avait la mauvaise idée de forcer l'entrée, on lui compliquerait la tâche. « Sylvain, Étienne, venez m'aider, on va barricader la porte avec les deux bureaux. » Les élèves s'activèrent avec énergie et notre mini-forteresse fut structurée avec rapidité. L'entrée condamnée, je plongeai sous un des bureaux et m'adossai à la porte avec violence. Jambes tendues, je bloquai mes deux pieds sur la maigre épaisseur du plan de travail qu'un troisième bureau renversé pour l'occasion. Le manque total de confort me parut presque accessoire en comparaison de l'apparente sécurité mise en place. Les garçons avaient regroupé les poufs sur ma gauche, autour du passage cadenassé vers une petite réserve utilisée par les agents de service. Leur but n'était pas tant d'assurer leur confort que de s'éloigner de la porte et de son hublot, car il n'était pas question d'échanger un regard avec la chose si elle venait à pointer ses fesses. Seul Jimmy choisit la position la moins enviable. Il était assis par terre, adossé contre le radiateur, face à moi, environ 5 mètres. Il serait le premier et le seul qui verrait cette chose si elle venait à se manifester derrière le hublot. Je créditais l'étonnant choix de cet emplacement sur le compte de sa frayeur.
« Qui a son portable sur lui ?»
demandai-je pour les sortir de leur torpeur. Personne ne répondit.
« Comment ça? Personne n'a son portable? Non mais, les mecs, j'hallucine. Vous passez vos journées sur Facebook à vous envoyer des SMS aux petits copains géolocalisés à 2 mètres de vos godasses et vous n'avez pas votre portable avec vous, là, en ce moment.
« Mais Fred, ils sont sous l'oreiller en train de charger, » argumenta Samy.
« Bon, et toi, Sylvain, ton portable qui t'a coûté si cher, il est où ?»«
Ben, Fred, il charge aussi. »«
Mais toi, Fred, il est où, le tien ?»
Je fermai les yeux, comme pour atténuer le sentiment de honte qui m'envahit. « Il est sur la table de chevet. Il sert de réveil. »«
Ouais. Et encore ?»
poursuivit Sylvain. « Et donc, il est en charge. » Je vis Sylvain et Étienne s'échanger un sourire complice.
« Bon, j'ai rien dit. » Maintenant, les garçons, silence.
Fin de la lecture pour aujourd'hui. 18h57, je suis à l'heure.
Oh, c'était un peu dynamique, j'ai la gorge chigre, il va falloir que je boive un coup tout à l'heure. Le replay sera disponible, comme d'habitude, dans quelques minutes sur le Facebook, sur la page Facebook d'Exilium. Sinon, peu de choses à dire. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette lecture. Et puis, dans le cas contraire, tant pis, moi, ça m'a fait plaisir de vous voir. Maintenant, je vais saluer tous ceux qui ont la gentillesse de laisser un petit message pour me dire bonjour. Alors, Mélanie, je te fais un grand coucou. C'est gentil d'être passé. Mélanie me laisse toujours un gros smiley, un gros icône. C'est sympa. Benjamin, mon gendarme préféré, je te fais un gros bisou aussi, Benjamin. Marie-Madeleine, fidèle au poste, je te fais un grand bonsoir, Marie-Madeleine, et je te dis à très bientôt.
Il est 19h, bientôt 19h. Allez, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je vous rappelle quand même deux choses, ce que je vous ai déjà dit hier, à savoir que la lecture nous mènera de toute façon largement jusqu'au 11 mai. Et les lectures resteront quotidiennes, ça ne change pas, sauf que elles iront du lundi au vendredi à partir de maintenant. Donc pour cette semaine, eh bien c'est notre dernier jour. Samedi, dimanche, je vous laisse tranquille et on se retrouve lundi à 18h30. Et deuxième chose, donc, mais ça j'aurai l'occasion de vous le rappeler plusieurs fois, tout à la fin de la lecture, il y aura une session qui sera uniquement consacrée à vos messages pour qu'on puisse parler de l'univers d'Exilium si vous l'appréciez, éventuellement de mes projets littéraires si vous avez des questions. On n'en est pas encore là, mais je vous en parle tout de suite si jamais vous aviez envie d'inviter du monde. Allez, maintenant on se revoit lundi à 18h30, je vous souhaite un excellent week-end et je répète ce que je vous dis à chaque fois, restez chez vous si vous n'avez pas d'urgence à sortir, soyez raisonnable, on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge encore, ne passez pas trop votre temps devant les médias parce que ça passe en boucle et c'est particulièrement anxiogène. Allez sur Arte, il y a ce superbe documentaire sur les animaux. Je vous laisse, je vous embrasse tous, bye bye et je vous dis à lundi, un excellent week-end.